France Inter. Le 5-7.
Avant le journal de 6 heures, on vous conseille un livre, un polar italien. Bonjour Michel Abesca.
Bonjour Mathilde.
L'affaire Bramar de Davide Longo est le premier tome d'une série de romans noirs qui cartonnent en Italie. Il s'ouvre très classiquement sur une scène de crime.
Oui, on se dit qu'on est en terrain connu, sur un chemin mille fois emprunté du genre policier, usé, archi-usé. Les premières lignes conduisent ainsi vers un cabanon dont la porte est entrouverte. À l'intérieur, un corps étendu sous la lumière diaphane de l'après-midi. Sur le dos de la victime, des entailles dessinent un motif mystérieux, ses cheveux noirs éparpillés tout autour. Le texte pourtant installe d'emblée une distance, par sa forme poétique d'abord et par le regard qu'il induit, comme si, au-delà du dégoût, la scène dégageait une beauté inattendue et cette ambiguïté est immédiatement troublante.
Le roman n'est donc pas aussi classique que prévu.
Et non, Mathilde, à l'instar de son personnage principal, d'une entêtante singularité. Au début, on ne le connaît que sous le nom de Corso. Il habite seul, la vieille maison héritée de sa mère, dans un village perdu des Alpes piémontaises. Corso semble passer l'essentiel de son temps en montagne, sur des spots d'escalade particulièrement dangereux, souvent la nuit. Ces pages qui disent les lieux, les bruits, les respirations, les odeurs, la rudesse, le danger, la solitude sont d'une belle puissance. À l'évidence, Corso cherche à fuir son passé, à oublier, à s'éprouver aussi, peut-être à se punir, peut-être à en finir. Et la montagne apparaît ainsi comme un pont entre la vie et la mort.
Pourquoi dites-vous cela ?
Parce que Corso est hanté par la mort de sa femme et la disparition de sa fille dont il se sent responsable. On l'apprend dès que son nom est révélé, page 33, Corso Bramar. On mesure alors mieux le sens du titre du roman, l'affaire Bramar. C'est lui le sujet central du livre et son principal mystère. Corso Bramar a été le plus jeune commissaire d'Italie, bientôt chargé par sa hiérarchie d'une enquête assez touchy sur un tueur en série qu'il va poursuivre pendant des années, jusqu'au moment où celui-ci s'en prend à sa femme, Michelle, et à sa fille, Martina. Corso quitte alors la police, se retire en montagne où il vit grâce à un poste de prof à temps partiel à Turin. On en est là quand s'ouvre le récit, au moment où un nouvel indice va lui permettre enfin de reprendre l'enquête.
L'intrigue se met alors en place, elle aura pris son temps.
Et c'est ce qui fait son charme, je crois. Banale en apparence, la traque d'un tueur en série, elle trouve précisément sa force dans la lenteur relative de sa progression, dans sa densité qui n'est pas faite que de rebondissements, dans la complexité des passions humaines qu'elle met en jeu, et dans l'opacité irréductible qu'elle conserve à la fin. Tout est révélé, mais le mystère demeure. 5 femmes auront été tuées, le dos entaillé. Michelle, la femme de Corso, aura été la dernière. Mais le tueur n'a jamais lâché l'enquêteur, lui envoyant régulièrement des lettres où sont reproduites les paroles d'une chanson de Leonard Cohen. Dans la dernière, un indice relance donc la traque que Corso va mener avec l'aide du commissaire Arkady Pan, son ancien adjoint, un tandem que l'on retrouvera dans les prochains épisodes de la série.
Pourquoi dites-vous qu'une part de mystère demeure à la fin ?
Eh bien parce que l'ambiguïté qui s'installe dès les premières lignes ne se lève jamais totalement. L'auteur met en scène un jeu de miroir entre le tueur et l'enquêteur qui le comprend trop bien. Un passage au début du livre soulève un coin du voile quand Corso s'interroge sur le moment de sa vie qu'il a révélé à lui-même. À partir de là, la suite apparaîtra d'autant plus vertigineuse.
Dans son cas, ça n'avait pas été comme tout le monde le pensait, la mort de Michel, les recherches vaines pour retrouver Martina, la solitude, la perte de son travail et enfin l'alcool qui avait fait de lui l'homme qu'il était à présent. L'ombilique coïncide toujours avec un instant, un choc net, précis, qui dévie la ligne de la vie en la faisant changer de direction. Le sien, ça avait été quand en entr'ouvrant la porte de ce cabanon, il avait décelé de la beauté là où l'homme qu'il croyait être n'aurait dû voir que de l'horreur. Voilà qu'elle avait été l'ombilique, le point d'inflexion de son existence. Après quoi, sa faute s'était limitée à soustraire cet instant à l'oubli, comme la gouttelette d'ambre condamne à l'éternité l'insecte qui s'y est aventuré.
Les mots, le style de Davide Longo dans cet extrait de l'affaire Bramar, un livre traduit de l'italien par Marianne Faurobert, l'éditeur c'est Le Masque. À jeudi prochain, Michel Abesca. Et jeudi. En attendant, toutes vos précédentes chroniques, tous vos précédents conseils sont sur franceinter.fr. Le polar sonne toujours deux fois.